Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En 1668, un siècle et demi après la révolte de Luther, dans les Hautes-Alpes, au Lot, Benoît Trancurel, âgé de 20 ans, jouit depuis 4 ans d'apparition de la Vierge Marie. Notre Mère du Ciel fait son éducation en vue d'une mission, la conversion des pécheurs. Un jour, Benoît rencontre des protestants qui lui posent la question « Pouvons-nous nous sauver dans notre religion ?» Benoît leur répond « J'en laisse le jugement à Dieu » ou, en langage actuel plus médiatique, elle aurait dit la même chose « Qui suis-je, moi, Benoît, pour vous juger ?» La Vierge Marie ne manqua pas de reprendre Benoît sévèrement. « Ma fille, parce que vous avez eu trop de respect humain et que vous avez craint de dire la vérité, vous ne me verrez plus pendant un mois. Si vous aviez dit non, quelques-uns d'entre les protestants se seraient convertis, ce qu'ils n'ont pas fait. » C'est donc en proclamant la vérité que les protestants se convertiront et non en pratiquant le dialogue œcuménique qui aboutit après 50 ans à l'effet inverse, à une protestantisation de l'Église catholique. C'est pourquoi, pour suivre les conseils de la Vierge Marie au Lot, nous continuons aujourd'hui à mettre en lumière les erreurs des réformateurs protestants en voyant la Sainte Messe. Voyons d'abord les principaux articles des réformateurs examinés par les pères du Concile. Ils sont au nombre de 10, et on pourrait dire que les réformateurs ont sorti là leur grosse artillerie, car ils détruisent tout. Il ne reste plus rien de la messe. Citons les 4 principaux articles. Le premier, c'est Luther qui enseignait que la messe n'est pas un sacrifice, ni une oblation pour nos péchés. Elle est seulement la commémoration du sacrifice accompli sur la croix, et c'est métaphoriquement que les pères ont pu l'appeler sacrifice. Elle ne l'est ni proprement, ni en vérité. Elle est simplement le testament et la promesse de la rémission des péchés. Deuxième article de Mélenchon et Calvin, ceux-ci enseignaient que la messe ne vient pas de l'Évangile. Elle n'a pas été instituée par Jésus-Christ, mais c'est une invention humaine. Elle n'est pas une bonne œuvre, elle n'est pas méritoire. Bien plus, en elle, on commet une manifeste et multiple idolâtrie. Troisième article, un disciple contemporain de Luther qui a enseigné toute sa vie la doctrine de Luther. C'est proférer un blasphème à l'adresse du très saint sacrifice offert par le Christ sur la croix que de croire que les prêtres offrent de nouveau à la messe le Fils de Dieu à Dieu le Père. Dire que le Christ est pour nous mystiquement immolé et offert signifie simplement qu'il nous est donné en nourriture. Et quand le Christ a dit à ses apôtres « Faites ceci en mémoire de moi », il ne leur a pas ordonné d'offrir son corps et son sang dans le sacrifice de la messe. Quatrième article, commun à Luther, Mélenchon et Calvin, ils enseignaient que la messe, comme sacrifice, ne profite ni aux vivants ni aux morts. C'est une impiété de l'appliquer pour les péchés, pour les satisfactions et les autres nécessités. En somme, selon ces réformateurs, vous perdez votre temps en étant là aujourd'hui, même plus, vous commettez une impiété notoire. Alors, pour répondre à toutes ces erreurs, les pères du Concile vont d'abord revenir à la base du dogme du salut en réaffirmant le sacrifice unique de Jésus-Christ sur la croix, oblation unique et dont l'efficacité est à jamais définitive. Il s'appuie sur saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, pour dire que notre Seigneur s'est offert lui-même une seule fois à Dieu son Père, par sa mort sur l'autel de la croix, en vue de réaliser une rédemption éternelle. Jusqu'ici, les protestants sont tout à fait d'accord avec nous et ils s'appuient sur cela pour faire cette objection. Puisque le sacrifice de la croix est unique et que par lui Jésus-Christ a réalisé une rédemption éternelle, ben, il n'y a pas besoin d'autres sacrifices. Donc la messe n'est pas un sacrifice et par conséquent il n'y a pas besoin de prêtre. Et c'est faire injure au sacrifice de notre Seigneur que de célébrer d'autres sacrifices. C'est logique. Les protestants, comme tous les hérétiques, ont l'art de s'appuyer sur un passage de la Sainte Écriture qui satisfait leur raison et interprètent les autres passages à leur façon lorsqu'ils ne rentrent pas dans le cadre étroit d'une logique, de leur logique. Ils oublient que l'Eucharistie est un mystère. Les pères du Concile de Trente ont eu le soin d'exposer ce mystère dans toute sa plénitude, sa perfection absolue et sa pureté. C'est pourquoi ils enseignent et déclarent ce que les chrétiens fidèles sont tenus de croire. Premièrement, que notre Seigneur a voulu perpétuer le sacrifice unique de la croix dans l'Église par un rite visible. Deuxièmement, ce rite visible, il l'a institué le Jeudi Saint, sacrifice visible propre à représenter ce sacrifice sanglant qui allait s'accomplir une fois pour toutes sur la croix. Un sacrifice propre à en prolonger le souvenir jusqu'à la fin des siècles, propre à en appliquer la vertu salutaire à la rémission de nos péchés quotidiens. Troisièmement, puisque notre Seigneur a donné aux apôtres et à leurs successeurs l'ordre de réitérer le sacrifice non sanglant qu'il a offert le Jeudi Saint, ils en ont logiquement reçu le pouvoir par ces paroles « Faites ceci en mémoire de moi ». Jésus-Christ, le Jeudi Saint, institue donc les prêtres du Nouveau Testament. Et les pères donnent deux preuves à l'appui de cet enseignement. La première est une prophétie très claire du prophète Malachie. Voici ce que dit ce prophète. « Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on sacrifie et on offre à mon nom une victime pure, parce que mon nom est grand parmi les nations. » Chez les Juifs, le sacrifice n'était offert qu'à Jérusalem. Donc, il ne peut s'agir dans cette prophétie des sacrifices de l'Ancien Testament. De plus, la victime est pure. Or, seul notre Seigneur Jésus-Christ fut une victime parfaitement pure. Donc, il pourrait s'agir du sacrifice du calvaire. Mais le sacrifice du calvaire est unique. Les protestants sont d'accord avec nous. Or, il ne peut s'agir du sacrifice du calvaire dans cette prophétie, puisque le prophète dit qu'on sacrifie en tout lieu. Et il utilise un présent de continuité, on sacrifie, qui marque la durée dans le temps. L'expression « en tout lieu » désigne toutes les nations. Parce que, parmi ces nations où on sacrifie, le nom du Seigneur est grand. Donc, les nations ont la foi, elles croient au Seigneur. Eh bien, c'est au XXe siècle, où toutes les nations de la terre ont été évangélisées, que s'accomplit parfaitement la prophétie de Malachie, en désignant le sacrifice de la messe qui offre en tout lieu, d'un pôle à l'autre, une victime pure, notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième preuve, citée par les pères du Concile de Trente, est tirée de saint Paul. Saint Paul qui dit ceci, « Vous ne pouvez pas boire le calice du Seigneur et le calice des démons. » Et un peu plus loin, « Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Alors, il faut expliquer un petit peu. Il faut entendre par table des démons l'autel sur lequel on immolait des victimes qu'on partageait ensuite dans un festin. Les premiers chrétiens, qui avaient des amis païens, étaient souvent invités à ces repas, où l'on mangeait de la viande sacrifiée aux idoles. Et par respect humain, il n'était pas rare qu'ils y aillent. C'est pourquoi saint Paul les reprend et il leur dit « Vous ne pouvez pas faire les deux. Il faut choisir. Soit vous assistez au sacrifice du Seigneur, soit vous assistez au sacrifice des démons. » Donc de ce parallèle entre la table des démons et la table du Seigneur, on doit conclure avec certitude que la table du Seigneur ne peut signifier que l'autel sur lequel on lui sacrifie. Sinon, il n'y aurait plus de parallèle avec les démons. Donc, il y avait bien un sacrifice dans l'Église du temps de saint Paul. Et donc, il y avait des prêtres pour offrir ce sacrifice. Les pères du Concile démontrent ensuite le caractère propitiatoire de la messe, puisque les réformateurs disent que ça ne sert à rien, ni pour les vivants, ni pour les morts. Le sacrifice de la messe est le même en substance que celui de la croix, disent les pères du Concile. C'est le même prêtre, notre Seigneur, qui continue de s'offrir par ses ministres. C'est la même victime qui s'offre d'une manière non sanglante sur l'autel et qui s'offrit d'une manière sanglante sur la croix. Il suit donc naturellement de cela que comme le sacrifice du calvaire est propitiatoire et pour nos péchés, et les protestants sont d'accord avec nous, le sacrifice de la messe, puisqu'il ne fait qu'un, eh bien l'est aussi, et vraiment. Donc, nous en recevons avec abondance les fruits. Aussi, dit le Concile, conformément à la tradition des apôtres, et là, il cite toujours la tradition, alors que les protestants nient la tradition, la messe est offerte non seulement pour les péchés et les nécessités des vivants, mais encore pour ceux qui sont morts dans le Christ et ne sont pas encore entièrement purifiés, c'est-à-dire pour les âmes du purgatoire. Et les pères du Concile répondent à l'objection des protestants en disant que la messe tient son efficacité de la croix. Les protestants n'arrivent pas à comprendre que le sacrifice de la messe ne fait qu'un avec le sacrifice sanglant du calvaire. Bien sûr, il y a un mystère, mais ce n'est pas contre la raison. Sur la croix, Jésus, qui est Dieu, et pour qui tout est présent, voyait tous les sacrifices de la messe qui s'offriraient par ses apôtres, par ses prêtres, jusqu'à la fin du monde. Rendant présent sur les autels, d'une manière non sanglante, son sacrifice présent du calvaire. Et faisant couler dans le temps, pour toutes les générations qui se succèdent, les fruits acquis une fois pour toutes sur la croix. De tout ceci, nous voyons que la messe, le cœur de la religion chrétienne, ce qui nous sépare des protestants, est immense, contrairement à ce qu'affirme le pape François, qui dit que ce qui nous unit est bien plus important que ce qui nous divise. On mesure la gravité de la situation actuelle en comparant l'attitude de Benoît, jeune bergère illettré, et celle du pape François, le pasteur de l'Église universelle, qui a préféré s'unir aux luthériens pour fêter le 500e anniversaire de la réforme protestante plutôt que le centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Alors, prions justement la Sainte Vierge Marie, qui a offert son Fils en sacrifice au pied de la croix et qui continue de l'offrir à chaque messe, demandons-lui la grâce de nous garder dans la vraie foi et la grâce de ramener les pasteurs de l'Église de leur aveuglement funeste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.